Les meeples sont arrivés, c'est la pause cet été.
Bienvenue dans C'est Ludique l'été, votre rendez-vous ensoleillé tous les samedis autour du jeu de société. Alors aujourd'hui, on sort les cartes, on s'installe à l'ombre d'un parasol ou autour d'une table de pique-nique et on parle jeu de cartes. Oui, ces petits formats malins, faciles à emporter partout. Alors c'est parfait hein, pour animer vos vacances, vos soirées entre amis ou vos après-midi en famille. Un jeu qui va reprendre un classique indémodable avec une nouvelle mécanique ou des pépites un petit peu plus récentes. Je vous propose un tour d'horizon de ces jeux qui tiennent dans la poche. C'est Ludique l'été, ça commence. Vous connaissez tous le 6 qui prend. Un jeu qui a conquis près de 4 millions de joueurs dans le monde, un classique ludique de Wolfgang Kramer. C'est simple, rapide et accessible, chaque joueur choisit une carte et la révèle en même temps. Si vous ajoutez la 6ème carte d'une rangée, vous récupérez les 5 premières et leur tête de bœuf. Oui, les points négatifs. Le but, hein, accumuler le moins de points à la fin de la manche. Alors désormais, place au Baron. Le Baron, un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kiesling, illustré par Franz Wowinkel pour 2 à 10 joueurs à partir de 8 ans et édité par Gigamic. Mais alors, quel est le but du jeu ? Bah, comme pour le 6 qui prend, c'est de récupérer le moins de cartes possible avec des têtes de bœuf. Mais désormais, la couleur entre en jeu. Au niveau matériel, vous avez des cartes avec des têtes de bœuf de différentes couleurs, bleu, jaune, vert, rouge, noir et blanc, et des valeurs allant de 1 à 110. Selon le nombre de joueurs, vous allez en distribuer un certain nombre. Par exemple, si vous jouez à 6, vous aurez chacun 16 cartes. Contrairement au 6 qui prend, vous ne regardez pas vos cartes, vous faites une pioche devant vous. Enfin, vous révélez 5 cartes au centre de la table que vous placez l'une en dessous de l'autre, hein, comme au 6 qui prend. Chaque joueur va prendre en main 4 cartes de sa pioche, voilà, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue ? Eh bien, tout le monde va choisir une carte de sa main et la pose face cachée. Puis on la révèle, celui qui a joué la plus petite valeur joue en premier en posant sa carte dans l'une des rangées et ainsi de suite pour les autres joueurs. Mais attention, vous ne pouvez poser une carte dans une rangée que si la dernière carte de celle-ci montre au moins une tête de bœuf de la même couleur que celle de votre carte. Si jamais vous ne pouvez pas jouer de carte, eh bien dans ce cas, vous devez récupérer une rangée. Votre carte deviendra la première de la nouvelle rangée. Vous ne repiochez des cartes que quand vous en avez plus. En gros, vous jouez vos 4 cartes et vous en reprenez 4 une fois les 4 posées. Vous récupérez également les cartes d'une rangée s'il y a 6 têtes de bœuf ou plus de la même couleur dans la rangée, ou si vous posez hein, la 6ème carte de la rangée. Les cartes récupérées hein, sont placées en pile devant vous, hein, ce sont vos points négatifs. Alors bon, à savoir, si vous respectez la couleur, vous posez votre carte dans la rangée que vous souhaitez. Hein. Les valeurs des cartes ne sont pas prises en compte, contrairement au 6 qui prend. Quand toutes les cartes sont posées, il ne vous reste plus bah, qu'à compter vos points. Celui qui a récupéré le moins de têtes de bœuf l'emporte. Vous pouvez faire plusieurs manches où l'on arrête hein, quand on atteint un certain nombre. À vous de décider hein, si vous voulez prolonger le plaisir. Il existe deux variantes que je vous laisserai découvrir. Alors dernière chose, hein, si vous avez la carte Le Baron, vous pouvez la mettre où vous souhaitez car elle est multicouleur. Avec le Baron, vous allez retrouver le plaisir de ce grand classique du 6 qui prend. L'ambiance du jeu est nouvelle et rafraîchissante, mais on s'y sent immédiatement à l'aise. Comme on dit, on connaît. On a plus de contrôle que dans la version classique. On n'est pas amené à devoir prendre des rangées à plusieurs reprises vers la fin du jeu notamment. Une belle réussite, avis unanime autour de la table. Allez, on continue dans un instant avec un jeu qui pourrait, malgré toutes les sorties, devenir un incontournable du jeu de défausse. On parle de Dobrov.
Les meeples sont arrivés, c'est la pause cet été. C'est la pause cet été, c'est ludique, c'est ludique, les jeux c'est magique.
C'est ludique l'été, ça continue avec cette spéciale autour des jeux de cartes. Un petit jeu de cartes malin rapide dans la veine d'un Uno, mais avec ce petit twist qui fait toute la différence. Dobro est un jeu de Fel Barros, Lucas Castano, Pedro Vinicius, illustré par Chris Borgers et Bibadash, pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans et édité par Igueri. Alors au niveau matériel, vous avez 60 cartes avec des valeurs allant de 2 à 12, mais aussi des cartes joker, des cartes un petit peu spéciales. Ça se joue en 3 manches, chaque joueur va recevoir 6 cartes, vous posez la carte oubli à côté de la pioche et c'est parti, vous êtes prêt à jouer. Mais alors comment on joue à Dobro ? A votre tour, vous avez 3 possibilités. Vous devez jouer une carte de votre main, elle doit être égale ou plus forte que la valeur au centre de la table. Par exemple, il y a un 4, je peux jouer un 5, un 6. Mais vous pouvez jouer aussi 2 cartes de votre main si elles sont par paire, par exemple 2 cartes 3. Si vous égalez la valeur au centre, c'est encore mieux. car le joueur suivant doit alors faire autant ou mieux que le double de ce que vous venez de jouer. Par exemple, si on joue un 5 sur un 5, sa valeur devient 10. Le joueur suivant devra mettre un 10, un 11 par exemple, ou deux cartes 5. Vous pouvez également, si vous préférez, jouer une carte spéciale, changement de sens, je passe mon tour, ou un joker qui vous permet de choisir une valeur entre 2 et 12. Elle peut être associée d'ailleurs à une deuxième carte. Par contre, si vous décidez de ne pas jouer, parce que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, dans ce cas, vous ramassez toutes les cartes qui sont dans la défausse et on enchaîne un nouveau tour de jeu. À la fin de chacun de vos tours, vous recomplétez votre main à 6 cartes, tant qu'il en reste un dans le deck central. Si un joueur oublie de refaire sa main à 6 cartes, les autres le lui font remarquer et il récupère la carte oubli. À lui ensuite de surveiller les autres pour la refiler. Car cette carte oubli vaut 1 point et dans Dobro, pour gagner, il faut le moins de points possible. Quand la pioche est vide, celui qui a la carte oubli doit la garder. On continue de jouer jusqu'à ce que l'un des joueurs a joué sa dernière carte de sa main. Ensuite, tout le monde compte les cartes qu'il a récupérées. Celui qui en a le moins aura 1 point, le suivant 2, puis 3 et ainsi de suite. Au bout de 3 manches, celui qui a le moins de points l'emporte. Dobro, c'est léger mais pimenté. On alterne entre opportunisme, posé pour doubler, bluff, je peux jouer mais je vais prendre le paquet car il n'y a que 3 cartes et je ne vais pas jouer ma carte, je passe mon tour tout de suite. Il y a de l'interaction directe via les cartes spéciales. Si vous aimez le Uno, vous aimerez forcément Dobro. Alors c'est sûr, on ne peut pas tout contrôler, mais c'est le principe de ce style de jeu de défausse. Ici, on a vraiment apprécié. Allez, d'ici quelques instants, on va se retrouver avec Angel et Morgan pour C'est Ludique, la suite.
Les meeples sont arrivés en maillot pour l'été. C'est ludique, les jeux c'est magique.
C'est l'été, les valises sont prêtes, les lunettes de soleil aussi, et bien sûr, les jeux ne restent pas à la maison parce que même en vacances, on continue de jouer chaque semaine avec vous dans votre émission préférée. Et dans C'est Ludique la suite, place à celles qui pensent toujours à glisser un jeu dans leur bagage. On retrouve Anne-Gaëlle. Bonjour Anne-Gaëlle.
Bonjour Matt, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, je crois qu'on va faire de l'escape game.
Ouais, parce que j'adore ça, c'est mon truc préféré, donc j'adore faire ça avec ma fille, qui maintenant a l'âge. Je vais vous parler de la gamme Unlock Kids, chez Spaceco. Alors c'est un jeu de Cyril Desmaeds, mais qui est en fait adapté par Wilfried et Marie Fort. Et en fait, ils sont épaulés de plusieurs auteurs scénaristes, en fait, pour les différents scénarios, puisqu'il y a plusieurs boîtes de Unlock Kids, donc forcément, là, à un moment donné, ça commence à faire, puisqu'on est à 4 boîtes.
Déjà ?
Et donc, chaque boîte, en fait, va avoir des illustrateurs différents, donc je vais pas pouvoir tous les citer, je vais en citer quelques-uns. Maud Chalmel, Antoine Bordon, Olivier Danchin, Marine Cazot, Rémi Tornior, enfin voilà, c'est plutôt, okay. Il y en a quand même pas mal, mais je voulais quand même en citer parce que leur travail est important. Et donc, Unlock Kids, c'est une gamme pour 1 à 4 joueurs. Il recommande à partir de 6 ans. Ça peut être un peu difficile à 6 ans pour certains enfants.
Oui.
Il faut les épauler au début, mais justement, c'est plutôt un jeu que je trouve de partage familial. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même checker ce que font les enfants, sauf s'ils sont très grands et habitués. Mais justement, je trouve que c'est un super jeu à jouer pour occuper les après-midi avant d'aller à la piscine, tu vois, ce genre de choses. Et donc, en effet, c'est des escape games, mais sans écran ni application, comme on pourrait le voir avec Unlock. Là, non, il n'y a pas du tout d'application. C'est, en fait, chaque boîte propose 3 univers différents, et chaque univers, il y a 2 aventures à l'intérieur.
Ok.
On va avoir détective, époque, légende, ou l'île d'émeraude, avec des, ce qui est un peu issu de la littérature jeunesse ou des films. Mais c'est hyper simple à installer, c'est-à-dire qu'on va avoir dans chaque boîte un tutoriel, comme ça on n'a même pas besoin d'expliquer à l'enfant les règles de jeu. On joue au tutoriel et hop, l'enfant connaît les règles, puisqu'en fait dans ce jeu, ce qui va être chouette, c'est qu'on va avoir des fois à regarder les cartes pour trouver des symboles, des objets, etc. Et on va faire combiner aussi des objets, on va récupérer des objets au fur et à mesure, par exemple une clé, et ben la clé elle a un petit bout de symbole au bout. Si je la rajoute sur ma carte, par exemple là où il y a une serrure, il y a un petit, et ben en fait ça va compléter un dessin. Et donc on va aller devoir retrouver le symbole qu'on a créé en complétant les deux objets. Et on va soit on va nous donner une carte, quelque chose, et on va avancer comme ça dans l'histoire.
D'accord.
Donc en fait les énigmes, elles ont été imaginées sans calcul très compliqué. Tu vois, c'est vraiment accessible quand même aux 6 ans, mais il va falloir essayer de voilà d'avoir une connexion visuelle, d'être un peu intuitif et d'avancer pour se débloquer. Et donc, s'il y a besoin, il y a une démo gratuite que vous pouvez imprimer en ligne, si vous voulez essayer, voir si ça peut vous correspondre. Sur le site, en fait, de Spaceco, vous pouvez imprimer directement un jeu. Bon, faut y penser avant d'aller en vacances, puisqu'on n'a pas tous une imprimante en vacances.
Bah oui.
Mais en tout cas, vous pouvez imprimer une démo pour essayer. Et donc, je trouve que c'est idéal, en fait, pour commencer les jeux d'enquête avec les enfants. Et c'est des aventures quand même relativement courtes. On va être 15-30 minutes, voilà, bien 30 minutes quand même. Et donc, c'est coopératif. Et ce qui est chouette, c'est que là, en fait, ils vont sortir bientôt le Kids Junior, donc même pour les plus
pour les tout petits, là.
Donc là, moi, par exemple, mon fils ou Unlock Kids, c'est pas du tout jouable. Il a 3 ans.
Mais oui, c'est impossible.
Et ben là, justement, il va lui aussi avoir ses petites boîtes. Donc, ça arrive pour la rentrée. Donc, c'est aussi chouette de dire que tu peux commencer avec quelque chose quand t'es tout petit, évoluer avec plus grand pour après finir sur du Unlock. Bon, pas de chance pour mes enfants. Moi, j'ai déjà fait toutes les boîtes d'Unlock.
Ah ouais, ok. Et puis, en général, tu te débrouilles plutôt très, très bien, j'ai l'impression.
Ouais, j'adore ça.
D'ailleurs, il y a la petite boîte short qui est sortie là, il y a quelques semaines.
Ouais, exactement. Et ben, je l'ai dépouillée.
Ben oui, mais... Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?
C'est très joli, un univers thématique, poésie, vraiment très chouette. Donc, ça s'appelle Le Chant des Embruns.
Ouais.
Donc, pareil, hein, pour vous, pour les vacances, pour les plus grands, pour le coup, là, où vous avez des ados, c'est quand même l'idéal parce que c'est des petites boîtes qui coûtent vraiment pas cher.
C'est ça.
Donc,
c'est...
si on veut occuper une soirée pas terrible au camping, on peut faire ça quand même avec les plus grands. Et celui-ci, je l'ai trouvé très chouette. Et pareil, je l'ai fini assez vite.
Je crois que c'est 7 euros la boîte short, il me semble. Hein, donc,
Ouais, bah, ça dépend des boutiques. Tu vas être sur 7, 8 euros.
Voilà,
ouais,
bah, en gros, c'est moins cher qu'une place de ciné. Hein, donc, si vous voulez se faire une petite soirée escape, c'est parfait.
Voilà. Ouais, c'est ça. Très, très bien.
Merci beaucoup, Engel. À la semaine prochaine. Bonnes vacances.
Avec grand plaisir. À la semaine prochaine. Bonnes vacances à tous.
Les meeples sont arrivés en maillot pour l'été. C'est ludique, les jeux, c'est magique.
Et on finit ce C'est Ludique l'été, la suite avec Morgane qui a toujours un jeu chaque semaine dans sa valise. Bonjour Morgane.
Salut.
Alors aujourd'hui tu vas nous parler de quoi ?
Aujourd'hui on va parler de l'Orcana.
L'Orcana.
Je connais un peu l'Orcana. Je suis accro à l'univers Disney. C'est pas une grande nouveauté.
Non.
Mais je crois que j'en avais jamais parlé à la radio de l'Orcana.
C'est possible.
C'est possible. L'Orcana, c'est un jeu de cartes à collectionner dans l'univers Disney, à l'instar d'autres jeux du genre comme Magic, Pokémon ou plus récemment Star Wars Unlimited.
Mm-hmm.
C'est un jeu de Ryan Miller et Steve Warner qui a donc débarqué chez Ravensburger en 2023. Je vais pas citer tous les illustrateurs et les illustratrices parce qu'il y en a énormément, vu qu'ils ont tout un collectif d'illustrateurs autour des cartes, mais il faut savoir que chaque carte est illustrée par quelqu'un et ce ne sont pas des images qui sont sorties tout droit des films d'animation Disney. Ils ont vraiment refait les illustrations totalement. L'Orcana, c'est un jeu de cartes du coup pour deux joueurs où on incarne des illumineurs et on se retrouve dans le royaume enchanté de l'Orcana à la recherche des éclats de l'or. Le but du jeu, c'est d'être le premier joueur à obtenir 20 éclats de l'or. Donc pour avoir la victoire, faut avoir les 20 éclats de l'or, faut en avoir récupéré 20. Ces éclats de l'or, on les obtient grâce à nos personnages qui vont aller défier les personnages adverses pendant la partie ou partir à l'aventure. Donc chaque joueur va avoir en début de partie 60 cartes dans son paquet de démarrage et il va récupérer une main de 7 cartes. Et en fait, à chaque tour, on va pouvoir jouer plusieurs cartes de notre main. Déjà, on va pouvoir placer une de nos cartes dans notre réserve d'encre. Donc on a une petite réserve d'encre devant nous. Mmh. Cette réserve, en fait, elle sert à payer le coût des cartes qu'on souhaite jouer plus tard. Donc en gros, c'est des cartes face cachée. On va perdre pour la partie parce qu'elles sont dans notre réserve d'encre, mais elles vont nous permettre ensuite d'acheter et de payer nos cartes qu'on veut jouer. C'est une réserve permanente, donc c'est une sorte de crédit en fait, des crédits que tu vas pouvoir utiliser.
Okay.
Du moment qu'on aura assez d'encre pour les payer, on va donc pouvoir jouer des cartes de notre main face visible devant nous. Donc ces cartes, elles sont de différentes sortes. On a des personnages, donc eux, ils peuvent être soit envoyés à l'aventure, soit ils peuvent aller défier. On a des lieux qui vont nous permettre d'avoir des éclats de l'or à chaque tour tant qu'ils ne sont pas retirés par l'adversaire. On va avoir des objets qui vont nous donner des capacités supplémentaires, des actions qui donnent des avantages immédiats et des chansons qui peuvent être gratuites, elles, si elles sont utilisées en même temps que d'autres personnages. Donc, elles peuvent être chantées, en fait, par la personne concernée. Si, par exemple, j'ai la carte libérée, délivrée et que j'ai Elsa en jeu devant moi, la carte, elle sera gratuite.
D'accord.
C'est bien elle qui chante libérée, délivrée.
Mais t'es pas obligé, toi, de chanter libérée, délivrée.
Non, mais après, tu peux, par plaisir, tu peux la chanter si tu veux.
D'accord, pourquoi pas.
Voilà, tu peux, il y a plein de chansons, hein, tu retrouves vraiment tous les classiques Disney dedans. Mais du coup, lorsqu'on joue un personnage, il sera pas actif tout de suite, il a besoin d'un tour, en fait, pour faire sécher son encre. Par contre, rien n'empêche d'utiliser des personnages qui ont été joués précédemment pour défier d'autres personnages adverses ou les envoyer à l'aventure. Donc, pour ça, en fait, comme dans tous les TCG, on va incliner la carte. Il va indiquer du coup qu'elle a été jouée
et
qui deviendra aussi vulnérable en fait, puisqu'une carte inclinée, elle peut être défiée par un adversaire à son prochain tour. Elle est un peu plus vulnérable en étant inclinée. Les cartes qui restent debout, par contre, ne peuvent pas être touchées par l'adversaire. Il faut savoir aussi que chaque carte a son pouvoir, son propre pouvoir spécifique, et que toute son action est indiquée sur la carte, donc c'est très bien détaillé. On a même des détails sur les films d'animation Disney, sur les scènes depuis lesquelles les illustrations sont faites. Les tours vont aussi vont ainsi s'enchaîner jusqu'à ce qu'un joueur atteigne les 20 éclats de l'or. Mais là où l'Orcana devient vraiment intéressant, c'est par sa capacité en fait de trouver à ouvrir le milieu du jeu de cartes à collectionner aux familles. Parce qu'on est vraiment dans un univers qui va attirer parfois plus qu'un Magic, par exemple. Enfin, moi, ça a été mon cas.
Ouais.
J'ai essayé Magic, j'ai pas vraiment accroché. Là, forcément, on me donne un TCG avec avec du Disney, juste aller les bras grands ouverts. Les decks sont entièrement personnalisables du moment qu'on respecte la règle des deux encres, deux couleurs en fait maximum par deck. Mais on va pouvoir créer son propre paquet en fait avec les personnages qu'on a envie aussi. Par exemple, moi, dans ceux que je joue principalement, j'essaye toujours d'y glisser un Stitch ou un Mickey dedans.
C'est
des personnages que j'aime beaucoup, mais voilà, du coup, j'essaye toujours d'en glisser dedans. En deux ans, on est arrivé au chapitre 8 qui est sorti fin mai.
Ça fait combien de cartes tout ça ?
Il y a 204 cartes par chapitre. Donc on est à presque 1600 cartes, là on doit être à plus de 1600 cartes.
Et tu en as combien sur ces 1600 cartes ?
Je les ai quasiment toutes.
Oh.
En plus, il doit me manquer une cinquantaine, je pense.
Ah ouais !
Après, je fais pas la course parce que dans beaucoup de jeux de cartes à collectionner, tu as la rareté des cartes.
Mais oui.
Donc tu as des cartes qui sont plus rares que d'autres, il y a ce qu'on appelle les légendaires, donc elles sont assez faciles entre guillemets à trouver. Et derrière, on a les enchantées. Sont vraiment beaucoup plus rares, et celle-là, je fais pas la course, tu vois. En 8 chapitres, je crois que j'en ai eu 2.
D'accord,
donc,
okay.
Voilà, il y en a une 8 ou 9, je crois, par chapitre. Donc voilà, après, ça dépend de l'envie de collectionner.
Le principe de ces boosters, c'est que quand tu achètes un booster, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans et tu peux avoir des doubles.
C'est ça.
Et oui.
En fait, après, dans les boosters, il y a quand même une proportion dedans. Donc tu sais que tu as 3 cartes communes, 4 cartes rares, etc. Et ça monte, et tu as forcément une carte qui est normalement très rare ou légendaire dedans. Donc la légendaire n'est pas à chaque booster, hein, mais t'as au moins des cartes très rares dedans, dans tous les cas.
Donc je suppose que tu fais des échanges et tout, quoi.
Oui, c'est ça, je fais des échanges. J'achète des fois celles qui me manquent. Alors c'est très très rare, mais il y a des sites qui permettent de les acheter à l'unité. Donc après ça permet aussi de construire ses propres paquets. Mais après, Ravensburger fait aussi des decks de démarrage.
D'accord,
sont très
ouais.
très bien pour découvrir le jeu. Et donc à chaque chapitre, on a 2 decks de démarrage, donc un par joueur, avec des cartes de base. Il y a toujours une carte rare dedans aussi. Voilà, c'est des paquets qui sont idéaux pour commencer. Et après, on peut les changer, modifier certaines cartes pour les rendre un peu plus puissants. On a aussi des coffrets coopératifs où on joue ensemble pour battre un méchant. Donc là, on en a eu 2. Il y avait eu Ursula au chapitre 4, et là il y a Jafar au chapitre 8. Et il y a aussi une boîte prélude que je conseille vivement à ceux qui veulent essayer sans rien y connaître justement à ce genre de mécanique, parce que c'est une boîte évolutive qui permettra d'apprendre les différentes actions qui sont possibles dans l'Orcana au fur et à mesure, avec en plus du vrai matériel. T'as un vrai plateau de jeu, t'as des vrais jetons, et ça donne vraiment l'impression d'être en effet jeu de société, en fait.
D'accord.
C'est vraiment en effet jeu de société. Nous, on l'a pris pour la ludothèque, et c'est vrai qu'on le vend en tant que jeu de société, parce qu'il y a vraiment tout dedans, jeu de plateau, t'as 2 decks de démarrage, t'as des cartes qui évoluent au fur et à mesure, donc c'est vraiment très très bien fait, surtout quand on n'y connaît pas grand chose en jeu de cartes à collectionner. Ça peut être un monde qui fait un peu peur, mais c'est vrai que dans l'univers Disney.
Mais avec 8 chapitres, ça ne tient pas dans ta valise, Morgane, on est d'accord?
Non, mais j'ai des petites deck box, parce que tu n'as pas besoin des 8 chapitres pour jouer, heureusement. Tu n'en as que tes petits, tu as 2 paquets de 60 cartes, en fait, un paquet par joueur, donc ils ont créé des deck box, des petites boîtes pour les ranger, donc ça tient dans la poche.
Et je suppose que toutes tes cartes sont sleevées?
Pas toutes,
celles
avec lesquelles je joue.
D'accord.
Oui, juste celle justement pour les reconnaître et éviter de les mélanger avec les autres joueurs. Mais non, après les autres, celles de la collection sont rangées dans des classeurs. Mais non, j'ai pas toutes mes cartes stylées, heureusement.
Très bien, merci beaucoup Morgane, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bonnes vacances.